Moi, c'est André de Mbujima au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, le FMI, les Fonds Monétaires Internationaux débloquent près de 262 millions de dollars pour Kinshasa, selon le représentant pays du FMI en RDC. Ces fonds sont décaissés pour spécifiquement renforcer les réserves internationales de la RDC et constituer des marges de manœuvre essentielles face aux chocs imprévus. René Tapsoba souligne que dans les contextes actuels des conflits que connaît la RDC, il est vital de garantir la stabilité macroéconomique et par ailleurs, son institution travaille en étroite collaboration avec les autorités pour s'assurer que ses ressources soient utilisées de manière transparente et efficace en ciblant les besoins les plus présents, y compris le soutien aux dépenses de sécurité exceptionnelles et aux investissements publics prioritaires pour la résilience économique et sociale. Il invite les autorités congolaises à redoubler d'efforts pour éviter des lacunes dans la mise en œuvre de ces réformes en l'instar de la multiplicité des dépenses. En mode d'urgence, le FMI devrait décaisser jusqu'à 3 milliards de dollars si le gouvernement exécutait fidèlement les réformes en cours. Comment commentez-vous cette actualité? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux Auditeurs. Vous pouvez écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp du Parole aux Auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones 971-680-79. Deps Vita est à la mise en œuvre de ce magazine. Julie Feza Bongonda sur la réalisation et la coordination. Blessing Nyombela pour l'équipe multimédia au micro, c'est Marcel Ngombala, toutes et à tous, et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à
ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux Auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, là, ces pays n'existaient pas.
Parole aux Auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Merci de nous suivre partout. Vous êtes en République démocratique du Congo. Merci également de nous suivre en direct sur les plateformes digitales de Radio Okapi, à savoir YouTube, Facebook et X. Et pour parler de ces fonds de 62 millions de dollars débloqués pour Kinshasa par le Fonds Monétaire International, j'ai le plaisir de recevoir dans ces studios René Tapsoba. René Tapsoba, bonjour.
Bonjour Monsieur Gombo et bonjour aux auditeurs de la Radio Okapi.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes représentant pays du Fonds Monétaire International en RDC. On va parler de ces fonds qui ont été débloqués. 62 millions de dollars américains pour Kinshasa, ce qui semble être une bouffée d'oxygène dans le contexte actuel de crise que traverse le pays. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, vous pouvez nous aider à comprendre lorsqu'on parle généralement de la première revue de l'accord au titre de la facilité élargie des crédits enfin de la RDC. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça?
Ok, merci de nous donner l'occasion de mieux étayer avec les auditeurs la quintessence justement de ce communiqué de presse.
Oui.
Il faut dire que la façon dont les évaluations des performances dans le cadre des programmes avec le FMI se passent, ça s'articule généralement autour de deux axes. Premièrement, il y a une série d'indicateurs budgétaires, monétaires, et deuxièmement, il y a une série de réformes structurelles qu'il faut mettre en œuvre dans un délai imparti. Et donc, quand la mission du FMI vient, donc elle vient sur une période de 6 mois, donc c'est des évaluations à mi-parcours chaque 6 mois pour faire le point. Et donc, quand elle vient, elle passe en revue l'ensemble de ses indicateurs et l'ensemble des réformes structurelles. Et elle fait un point et voit si la mise en œuvre est satisfaisante. Et quand la mise en œuvre est satisfaisante, alors on dit qu'il y a une conclusion satisfaisante du programme économique et financier de la République démocratique du Congo que le FMI appuie par mécanisme qu'on appelle, un instrument qu'on appelle facilité élargie du crédit. C'est le nom de la facilité et de l'instrument financier. Mais le programme, c'est le programme de la République démocratique du Congo.
Non, il peut arriver aussi que le conseil d'administration du Fonds monétaire ne puisse pas approuver simplement parce qu'on n'a pas respecté tout ce qu'il y a comme indicateur budgétaire, monétaire et également sur les réformes.
Tout à fait. Donc il arrive dans certains pays, y compris par exemple, si vous repartez dans l'histoire, ici au niveau de la RDC, il y a eu des périodes où on n'est pas parvenu à une conclusion satisfaisante de la revue. Au titre de la facilité élargie de crédit, si vous repartez dans les années 2010, il y a même eu à un moment donné une interruption de la coopération en termes de programme. Et donc, depuis 2021, il y a eu un réengagement et pour la première fois de son histoire, la RDC est parvenue à mener à terme un programme. Donc, 6 revues. De façon satisfaisante. Et à l'issue de ça, le gouvernement a souhaité continuer avec 2 nouveaux programmes. Cette fois-ci, un programme appuyé par la facilité élargie des crédits, donc c'est le programme standard,
oui,
qui vise à répondre aux besoins de balance des paiements, et un autre programme axé sur la lutte contre le changement climatique. Donc pour aider le pays non seulement à renforcer sa résilience par rapport au choc climatique, mais aussi à consolider son statut de pays solution dans la transition mondiale vers une économie mondiale à faible émission de carbone. Et ce programme, c'est appuyé par la facilité pour la résilience et la durabilité. Donc ce sont ces 2 programmes triennaux qui donnent un décaissement prévisionnel cumulé d'environ 3 milliards de dollars.
Donc c'est déjà une bonne nouvelle pour la RDC, donc d'avoir pu répondre favorablement à tous ces critères pour bénéficier de ce fonds, avec le Fonds monétaire international. Alors maintenant, pour ce qui est des 272 millions qui ont été décaissés, on dit c'est spécifiquement pour renforcer les réserves internationales de la RDC et à cause de marges de manœuvre essentielles face au choc imprévu. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage par rapport à ça?
Oui, tout à fait. Le décaissement lors de cette première revue, comme dans le programme précédent, ça va au niveau des réserves internationales à la Banque centrale. C'est pour renforcer le matelas de devises de la Banque centrale. Et cela permet au gouvernement de faire face aux obligations financières avec l'international. Par exemple, quand vous voulez importer des médicaments, quand vous voulez importer du carburant, c'est pas avec des francs congolais, c'est avec des devises, que ce soit des dollars, des euros. Ça permet aussi de rembourser le service de la dette. Quand vous avez de la dette vis-à-vis de l'extérieur, vous ne remboursez pas en francs congolais, c'est en monnaie étrangère. Et aussi, ça permet d'avoir un matelas de devises en cas de choc futur éventuel. Et c'est là où on dit que ça renforce la résilience. Et généralement, il y a des niveaux seuil. Donc, on appelle ça des niveaux d'adéquation, de couverture des importations. Et dans certains pays en développement, on dit qu'il faut au minimum 3 mois de couverture des importations. Pour l'instant, au niveau de la RDC, il y a eu des progrès. Parce qu'avant le programme, en 2021, les réserves internationales au niveau de la Banque centrale, c'était à peine 800 millions de dollars. Mais depuis le programme, à ce jour, on est presque à 7 milliards de dollars. Donc, il y a eu des progrès tangibles. Mais cela dit, ça reste en deçà des niveaux d'adéquation recommandés parce que ça tourne autour de 2,3 mois, 2,4 mois de couverture des importations. Donc, il y a encore de la marge de progrès. Et cela permet aussi de renforcer la monnaie nationale. Oui. Parce que quand les populations se plaignent, par exemple, de la perte de valeur de la monnaie nationale, le franc congolais, c'est aussi lié au niveau des réserves internationales dont dispose le pays.
Voilà, là c'est bien. Alors, on reproche souvent que ça soit vis-à-vis de la Banque mondiale. Dernièrement, on a reçu le directeur pays de la Banque mondiale ici, Damien Maman, pour s'expliquer par rapport à cela. On va vous reposer la même question. On reproche à toutes ces institutions de Bretton Woods et souvent de ne pas mettre de mécanismes de suivi. Il s'agit des finances, il s'agit de l'argent, et c'est ça de l'argent qu'on rembourse en principe. Et on a comme l'impression qu'il n'y a pas de mécanismes de suivi. Et puis souvent, des fois, la gestion est faite de manière pas très transparent, il n'y a pas de bonne gouvernance. Alors comment pensez-vous accompagner les gouvernements congolais? Parce que dans l'interview que vous avez réalisée avec mon confrère Michel Tifinda, vous avez dit des travaux en étroite collaboration avec les autorités congolaises pour que ces ressources soient utilisées de manière transparente et efficace.
Tout à fait. Les défis de gouvernance sont des préoccupations légitimes et ce n'est pas ici uniquement à RDC, c'est un peu partout. Et c'est la raison pour laquelle, à travers nos programmes, on met en place une série de réformes structurelles censées justement répondre à ces défis d'amélioration de la transparence et de la gouvernance. Cela dit, il faut bien noter que on ne décaisse pas l'enveloppe totale d'un coup. Donc la conception du programme est faite en sorte que on permette d'avoir des incitations encourageant à l'amélioration justement de la bonne gestion des finances publiques et de la préservation de la stabilité macroéconomique. Parce que on vous a bien dit que c'est une enveloppe de 3 milliards de dollars sur 3 ans. Mais avec des évaluations à mi-parcours. Et donc, chaque 6 mois, on vient et on fait le point. Si la mise en œuvre n'est pas satisfaisante, ça ne donne pas droit à un décaissement. Donc, ça veut dire déjà qu'il y a un mécanisme de suivi à ce niveau. Et par exemple, pour les ressources qui sont décaissées au niveau de la Banque centrale, à chaque fois, il y a ce qu'on appelle une évaluation des mesures de sauvegarde. Donc, on vient et puis on évalue pour voir est-ce que les dispositifs de gouvernance, de transparence, de contrôle interne sont bien en place au niveau de la Banque centrale pour garantir l'intégrité des ressources qui sont décaissées. Maintenant, en ce qui concerne même la gestion des finances publiques, au cœur des réformes qui sous-tendent ce programme, il y a l'adhésion aussi strict que possible à la chaîne de la dépense. Donc le gouvernement s'est engagé à réduire autant que possible le recours aux procédures en urgence pour l'exécution des dépenses publiques. Parce que comme vous le savez, quand on fait recours aux dépenses en urgence, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle. En tout cas, il y a beaucoup de contrôle qui manque. Et ça ouvre la voie à des résultats qui ne sont pas toujours ce qu'on aurait souhaité. Mais dans le cadre du programme, le gouvernement s'est engagé. Ils ont adopté un arrêté interministériel qui révise le manuel de procédure des dépenses. Et cela a été appuyé par une circulaire de la première ministre à l'endroit de tous les membres du gouvernement, les induisant à se conformer dorénavant à ces procédures d'exécution de la chaîne de la dépense. Et il y a d'autres mesures connexes, dont l'opérationnalisation de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et la déconcentration de l'ordonnancement des dépenses au niveau des ministères sectoriels définis en amont. Et pour donner aussi un autre aspect, c'est dit dans le cadre du programme, on essaie aussi de renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption et d'amélioration de la gouvernance. Et à ce niveau, notre rôle, c'est de renforcer les capacités matérielles, financières et opérationnelles des entités de contrôle. Donc, si vous prenez la Cour des comptes, si vous prenez, par exemple, l'ITIE, l'initiative de transparence pour les industries extractives, si vous prenez même la PLC, donc l'autorité pour la lutte contre la corruption. Ce sont des entités pour lesquelles nous on fait un plaidoyer dans le cadre du programme pour que le gouvernement veille à les doter de ressources adéquates pour que ces institutions-là puissent maintenant faire le contrôle adéquat de l'utilisation de ces ressources.
Voilà, ça c'est très important d'accompagner les gouvernements congolais. Alors, avant d'ouvrir le standard, vous avez également invité les autorités congolaises à redoubler d'efforts pour éviter des lacunes dans la mise en œuvre de ces réformes, à l'instar de la multiplicité des dépenses en mode d'urgence. C'est une façon pour vous également d'accompagner les gouvernements congolais à travers de ces genres de recommandations.
Tout à fait. Et nous, on se réjouit d'ailleurs de voir que ce n'est plus uniquement le FMI qui tire la sonnette d'alarme sur le besoin de réduire au maximum le recours aux dépenses en procédure d'urgence. Cela devient l'objet de débats intenses au niveau des parlementaires, au niveau du Sénat, et nous, ça nous réjouit, même au niveau de l'opinion publique, parce que cela permet d'inciter le gouvernement vraiment à s'adonner à l'application aussi diligente que possible de cet arrêté que le gouvernement a lui-même adopté. Et cela est de nature, dans les mois à venir, en tout cas, à améliorer davantage la gestion de des finances publiques en ligne avec les standards internationaux.
Voilà, René Tapsoba, représentant du pays du FMI en RDC, on revient. Vous, on va ouvrir le standard pour recueillir les avis des auditeurs. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de ces montants de 262 millions de dollars américains que le Fonds monétaire international débloque pour la RDC. Si vous voulez intervenir, composez au 9-716-80-79.
Parole aux auditeurs.
Nous avons déjà en ligne Amos Bissimoa qui nous appelle depuis Bukavu, Sylvain Guernoff qui est à Mayagi et Jérémy Mamba à Lubumbashi. Nous disons merci également à ceux qui ont réagi sur la page Facebook par aux auditeurs. On pourra lire quelques-unes de vos réactions au cours de ce magazine. Pour l'instant, la parole est aux auditeurs. On ouvre le bal avec Amos Bissimoa qui nous appelle depuis Bukavu dans le sud qui va. Amos, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de la radio Capi, bonjour à l'invité présent au studio. Au fait, cette initiative est la prouesse de l'invité qui est lui-même, c'est le manager de ce projet pour le bien-être de la République tendant à renforcer les verbes internationales au niveau de la RDC, comme vous l'avez signalé dans votre sujet. Et il est bien dit pour constituer des marges de manœuvre essentiel face aux chocs imprévus. Tout Congolais doit appuyer ce projet. Mais la plupart des fois, ce qui nous déçoit, c'est que nous lisons des projets intéressants. Notre gouvernement en parle, les animateurs de ce projet en parlent sur le terrain. Il y a des montants colossaux qui sont décaissés, soit par le FMI, soit par la Banque mondiale et autres organisations internationales, même régionales. Même au niveau de l'Afrique qui soutient la RDC et qui collabore avec notre pays. Mais la suite, il n'y a rien sur le terrain. Et ça reste lettre morte. On se demande finalement, l'argent qui a été décaissé est allé où et a servi à quoi? Parce que sur le terrain, il n'y a pas de résultats escomptés. Et la plupart des fois, beaucoup de Congolais se posent plusieurs questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas complicité aussi entre certains de nos dirigeants et ces organisations internationales contre la RDC, et pour qu'ils se fassent des moyens, ils viennent juste nous flouer avec des chiffres. 262 millions, c'est beaucoup d'argent. Et souvent, on se pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas même ce qu'ils appellent opération retour en faveur de ces mêmes organisations contre le peuple congolais? Et vous l'avez bien dit, Marcel, ce n'est pas un dos. C'est l'argent qui sera remboursé par la République. C'est l'argent qui sera remboursé par le peuple congolais. Parce que la plus grande façon de questions, Marcel, de bons projets financés à hauteur de millions et des millions de dollars, mais pour quel résultat sur le terrain? Heureusement, l'invité est là, et c'est lui qui chapeaute le projet. J'aimerais qu'une année après, on puisse encore l'invité lui demander, nous en sommes où? Et c'est là qu'on doit donner raison à Nicolas Kazadi. En dépit de tout ce qu'on veut lui dire, mais il a dit vrai. Chers Congolais, quand l'argent est là, on se le partage d'abord et après nous réfléchissons. Et voilà le mal de notre pays. Notre mal réside au niveau de la corruption, de l'impunité, des détournements. On vit et aussi des dirigeants qui devaient lutter contre ces maux, contre c'est quelqu'un qui détourne. Qu'on ne dit pas qu'il a été interpellé et l'argent n'a pas été retourné. Parce que la plupart des fois, je mets quiconque au défi, qu'on me dise depuis qu'on parle de détournement. Et surtout les collaborateurs de ce régime actuel, ils ne détournent que des millions, de 300 millions, de 400 millions, de 500 millions. On nous dit, comme les Kamoutamba et les autres, Nicolas Kazadi a passé beaucoup d'autres de Robotas. On les a condamnés, mais finalement, est-ce qu'ils remettent cet argent? Non!
Voilà, merci. Merci. Voilà, merci. Merci à Mons, merci à Mons Bissimoa, d'avoir appelé depuis Bukavu. Notre invité aura réagi là-dessus, mais il a déjà, si vous avez pris l'émission dès le départ, il a déjà expliqué comment son institution compte accompagner le pays pour que ses ressources soient utilisées de manière transparente et efficace en ciblant les besoins les plus pressants. On verra pouvoir encore réagir par rapport à ça pour plus d'explications. Merci à Mons Bissimoa d'avoir appelé depuis Bukavu. Sylvain Ganoff, vous êtes à Magui. On vous écoute, vous avez la parole.
Oui, bonjour Marcel. Pour m'avoir associé à cet échange, je vous dis merci. Je salue l'invité. Ce matin, quand j'ai sur le sujet, j'ai regardé le tableau de la pauvreté et de la misère dans les pays, spécialement dans les pays qui sont occupés par les violences armées. Si le Fonds monétaire international intervient aussi dans le cadre de la régulation de la pauvreté et de la misère, je n'oublie pas, bien sûr, évidemment, son rôle premier dans la gestion des finances publiques internationales ou la gestion du circuit monétaire et financier international. Mais je me dis, si le fonds de l'État, il y a encore un problème. Et comme je l'ai dit, je prends la province de l'Ituri pour laquelle je voudrais faire vraiment un plaidoyer. Et ça fait déjà 4 ans ou 5 ans que je réfléchis sur ce qui se passe dans les provinces à conflit. Je prends l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud-Kivu, le Congo aussi. Lorsque la RDC reçoit des financements des fonds monétaires internationaux, en tout cas, je voudrais proposer à ces réfugiés de garder certaines provinces qui souffrent. Je vois le gouvernement de l'Ituri qui souffre, celui de l'Ituri aussi. Je me dis, si réellement la RDC va bénéficier de ces fonds, est-ce qu'il ne faut pas faire émerger une province qui soit en opération militaire? Monsieur Marcel, j'ai trop de peine quand je regarde les jeunes gens aujourd'hui dans les groupes armés parce qu'ils n'ont pas d'emploi. L'invité qui est là avec vous va vous dire que là, il est interdit dans le cadre de la réduction de la pauvreté. Et cette pauvreté est la cause, hein, la cause de l'enrôlement des jeunes gens dans les groupes armés, la province de l'Ituri. Je souhaite que cet hémicycle essaie de nous dire qu'il donne un peu de conseil aux droits congolais pour que le financement décaissé pour la RDC intervienne pour stabiliser les provinces qui sont sous les conflits armés tels que ma province de l'Ituri. Je m'arrête là aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler.
Voilà. Merci beaucoup, Sylvain Ganoff. Vous plaidez pour que ce financement soit plus axé pour des provinces en conflit entre la province de l'Ituri. Merci Sylvain Ganoff d'avoir appelé depuis Magui dans la province de l'Ituri. Pasteur, Monsieur Jérémy Mamba, vous êtes à Lubumbashi. On vous écoute, vous avez la parole.
Oui, bonjour Monsieur Marcel. Bonjour également à l'invité. Le sujet vraiment, il est très pertinent au regard de tout ce que nous constatons aujourd'hui et à un certain moment, quand je jette un regard rétrospectif sur la situation socio-économique de notre pays, et lorsque je regarde encore dans la marmite, n'est-ce pas, de la politique publique de notre pays, et lorsque je constate l'absence d'institutions financières solides dans notre pays, moi je me dis que l'aide du FMI n'est qu'une grâce que les autorités du pays devraient peut-être saisir la balle au bon pour pouvoir, n'est-ce pas, entrer dans la bonne gestion. Parce que ce n'est qu'une grâce tout à fait particulière. Sinon, dans la mesure du possible, nous ne méritions pas à bénéficier au regard de ce que représente sur le terrain notre gestion. Alors, ici, je voudrais dire, si l'aide du FMI aujourd'hui arrive à ce stade et connaît peut-être de freins par rapport aux conditions, entre autres qui consistent, n'est-ce pas, à pouvoir, n'est-ce pas, renforcer donc les structures, n'est-ce pas, et également viser la gestion financière publique et aussi la gouvernance. Lorsqu'il y a des freins comme ça qui entravent ces conditions, moi je me dis qu'on aura du mal à pouvoir gérer financièrement ce que nous avons. Parce qu'il y a, il se pose un problème. Lorsque le FMI donne, ce que j'apprécie, il accompagne cette aide avec un outil pédagogique. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande à ce qu'il y ait une certaine orthodoxie dans la dépense ou dans les dépenses publiques, qu'il y ait également une certaine transparence dans la gestion, également qu'il y ait tout à fait ce qu'on appelle la mobilisation. Donc, c'est-à-dire, on essaie un peu de réduire aussi sensiblement les exonérations et aussi améliorer, n'est-ce pas, la mobilisation des recettes sur terrain. Alors, je voudrais dire ceci. Aider le pays, c'est une bonne chose. Maintenant, le problème, nous sommes animés d'une mauvaise culture dans notre pays. Moi, je pense que c'est pas là que nous devrons commencer. Il faut nécessairement, la RDC mérite avoir un atelier spécial où on doit commencer par inculquer des valeurs sûres de gestion à chaque dirigeant à tous les niveaux possibles. Parce que nous sommes en train de constater que si nous faisons les statistiques, nous voyons bien que la gourmandise dans la gestion et la grande crème, c'est pratiquement Kinshasa. Et si on aide Kinshasa, peut-être le montant est alloué pour Kinshasa en appuyant en ce concernant les réserves, j'ai toujours fait allusion à ce que mon professeur, j'ai fait allusion à John Luandu, à l'ISC, qu'est-ce qu'il disait? On ne joue pas au capital. On peut jouer avec toute chose. Et lorsque vous avez un montant pour affecter à tel objectif, eh bien, il faut qu'il y ait du répondant sur le terrain. C'est ce qui intéresse la population congolaise. Nous voulons voir des actions à impact visible réellement. Mais jusqu'alors, quand nous regardons sur le terrain, ce qu'on donne et ce qu'on détourne, si vous avez à une personne, à elle seule, qui arrive à détourner 50 quelques millions de dollars, moi, je me dis que c'est ce qui échappe. Nous devons extirper cette mentalité-là qui nous tire vers le bas à tout moment, à tout bout de champ. Il faut qu'il y ait des détournements dans cet angle, dans ceci. À ce moment-là, ce sont des kilomètres de route qui échappent. Et il faut aussi, je voudrais aussi demander à ce que nous pouvons plus nous focaliser sur les investissements non miniers qui pourraient peut-être donner l'autonomie dans les avancées, n'est-ce pas, sur le terrain de notre pays. Nous ne pouvons pas tout le temps se fier sur ce qui est du domaine minier. Nous devons remplacer le cuivre, par exemple, rouge, par le cuivre vert, par exemple. Donc, c'est-à-dire essayer de mettre nos investissements, commencer par mobiliser sur le terrain. Nous devons d'abord commencer nous-mêmes par mobiliser nos propres recettes. Nous devons, deuxièmement, diminuer sensiblement les exonérations, surtout par ceux qui se disent gros légumes dans notre pays qui échappent, n'est-ce pas, au contrôle, et aussi des détournements à grande échelle. Si nous arrivons à maintenir ces choses, il y aura du sérieux dans notre
merci.
Manière de gouverner.
Voilà, merci.
Et si la lutte contre la corruption entre en jeu, eh bien nous pouvons décoller. Sans même attendre le FMI, la RDC est à même de voler de ses propres ailes.
Voilà, merci beaucoup à Jérémy Mamba d'avoir appelé depuis le Lubumbashi. Et avant d'accorder la parole à Maître Patrick Odia qui nous appelle également de cette même ville, je pense qu'on doit un peu clarifier les choses. Peut-être que mon invité pourra aussi m'aider. Parce que lorsqu'on parle du FMI qui débloque près de 262 millions de dollars pour Kinshasa, ça ne veut pas dire pour la ville de Kinshasa. Je pense que ça veut dire pour la RDC. Mais Kinshasa, c'est le siège des institutions, c'est-à-dire ça va être géré au niveau de Kinshasa. Mais ce n'est pas pour Kinshasa, c'est pour... c'est au gouvernement d'apprécier où cet argent pourrait être affecté. Comme vous avez dit, comme vous avez suivi, c'est pour renforcer les réserves internationales de la RDC et construire des marges de manœuvre essentielles face aux chocs imprévus. Voilà, les chocs, c'est pas seulement culturel, ça peut être dans certains points également du pays. Merci Jérémy Mamba depuis le Lubumbashi. Maître Patrick Odia, vous avez aussi la parole. Ensuite, on va retourner à notre invité pour qu'il puisse réagir à toutes vos préoccupations. Maître Patrick Odia, vous appelez depuis le Lubumbashi, vous avez la parole.
Merci Marcel. Rapidement, je voulais saluer l'invité résident pays. Autrefois, nous avons mené également des émissions pertinentes avec lui. Mais aujourd'hui, je voudrais un peu qu'on réfléchisse sur des questions techniques.
Oui.
Je vais y aller, s'il peut noter des questions tout simplement. Je vais faire un petit commentaire. S'agissant des défis majeurs, je pense que lui, en tant que résident pays des FMI, il sait les défis auxquels la RDC fait face ou l'État congolais fait face, notamment la dépendance excessive au secteur minier. Il y a également une faible diversification de la production nationale en termes d'agriculture, mais aussi des industries. Nous n'en avons pas. Ça, ce sont des défis. Il y a également insuffisance des infrastructures économiques. Là, je parle, je vois directement les routes, les énergies et la logistique ou les logistiques également. Il y a également un autre défi majeur, celui de la gouvernance paix financière, la gouvernance financière paix transparente. Parce que tout le monde qui est revenu ici, il a parlé de la gouvernance. Moi, je voulais relever ces défis et demander aux résidents pays quel a été, est-ce qu'ils ont eu le temps également quand même un peu de réfléchir autour de ces défis et quelles sont les mesures qui ont été prises hein, pour essayer de contourner ces défis. Mais je voudrais également poser deux questions, comme je l'ai dit tout à l'heure même. La première question porte sur quels sont les indicateurs macroéconomiques retenus par les FMI pour évaluer la performance de la RDC. Quels sont les indicateurs? Si les résidents pays peuvent nous dire également quels ont été les indicateurs qui ont poussé les FMI à pouvoir également décaisser un autre montant ou une autre somme également, ça serait également un avantage pour nous. Et à cette question également, c'est greffe une petite question. Par exemple, allant dans le sens de comment ça serait que peut-être dans moyen terme, telle croissance, tel indicateur sera atteint et quelles sont les mesures qui ont été atteintes. Et une autre question, Marcel, permettez-moi de poser cette question également, c'est concernant sur comment sont intégrés les principes de transparence, de traçabilité et de l'audit dans l'utilisation des fonds. Parce que lui, en tant que bailleur de fonds, et lorsqu'il décaisse l'argent, les FMI, il doit quand même s'assurer qu'il y a quand même quelques mesures, si vous voulez, quelques critères, allant dans le sens dans la transparence, mais aussi dans la gestion, dans la bonne gouvernance et l'audit également des fonds publics. Qu'est-ce que le gouvernement lui a dit par rapport aux principes à intégrer dans la transparence, dans la bonne gouvernance des finances publiques également? Et je voudrais citer Marcel pour dire que la RDC, pour que cet argent, la dette n'est pas mauvaise, mais pour que la dette puisse profiter, il faut investir. Et lorsqu'on parle de l'investissement, il faut parler, par exemple, des routes interprovinciales. Il faut parler, par exemple, dans l'industrie, de l'agriculture, par exemple. Mais à ce stade, Marcel, aucune avancée n'a été significative jusqu'à là, même si les autres parties ont été déjà décaissées. Et lorsqu'on ajoute également l'argent, c'est comme s'il y aurait également des inégalités, parce qu'il n'y aura que des tournements. Et nous, les peuples lambda, qui allons subir? Nous allons subir après 15 ans, 12 ans après, parce que ça sera les dettes. Les dettes d'aujourd'hui seront également les dettes fiscales qu'on va ajouter également demain. Voilà un peu ce que je pouvais parler en termes de questions, défis et propositions que l'auditeur ou l'invité de tout à l'heure pourrait également nous dire.
Voilà, merci beaucoup, Maître Patrick Odia, depuis le Lubumbashi. René Tapsoba, vous avez la parole.
Oui, merci, cher Gombo, et merci aux auditeurs pour toutes ces questions pertinentes. Par rapport à Monsieur Bissima, je pourrais dire que
en face du micro.
Ok, je pourrais dire que par rapport aux ressources décaissées cette fois-ci pour renforcer les réserves internationales, il faut noter d'emblée que cela permet de conforter la résilience du pays et surtout aussi de conforter la stabilité du taux de change. Parce que ça, on ne le note pas assez. Depuis mi-2024, depuis la seconde moitié de 2024 à ce jour, il y a une relative stabilité du taux de change. Et l'effet corollaire, c'est que il y a aussi une stabilité des prix. Il y a une baisse de l'inflation qui est retournée à autour de 1,5% en fin juin. Un glissement annuel. La première fois depuis 3 ans. Qu'est-ce que cela veut dire pour le pouvoir d'achat des populations? Ça restaure un peu de pouvoir d'achat en faveur des populations. Et donc, ça, c'est quand même un acquis qu'il convient de noter. Maintenant, effectivement, il y a un enjeu en termes de traduction de tous les efforts déployés en faveur d'un développement socio-économique. Et c'est là où il faudrait clarifier, parce que l'appui que le FMI apporte, c'est très infime par rapport aux besoins de la République démocratique du Congo.
Donc c'est important de bien cibler le secteur.
C'est dit, cet appui, c'est pour répondre aux besoins de balance des paiements. Donc permettre au pays de faire face à ses obligations internationales et renforcer le matelas de devises, et qui permet aussi de garantir la stabilité macroéconomique, la stabilité des prix. Et aussi, ça catalyse l'appui des autres partenaires au développement. Si vous voyez, avec le programme du FMI, il y a la Banque mondiale aussi qui fait des décaissements additionnels. Et cette année, par exemple, il décaisse en appui budgétaire plus de 600 millions de dollars. Parce qu'il y a le programme du FMI qui est là, qui permet de veiller à ce qu'il y ait une amélioration dans la gouvernance financière. Et ça, ça donne des signaux positifs aux autres partenaires, pas seulement au développement, mais même les investisseurs privés. Parce qu'on travaille aussi à améliorer l'environnement des affaires, à rendre le pays beaucoup plus attractif. Parce que le potentiel économique du pays est immense. Il faut juste améliorer l'environnement des affaires et investir dans les infrastructures et le capital humain. Et cela permettra d'exploiter ce potentiel immense. Un autre aspect aussi que j'aimerais souligner, c'est que les ressources du FMI, c'est pas ça qui va permettre vraiment de financer l'agenda du développement. Parce que ce que nous, on apporte, c'est 3 milliards de dollars. La RDC, c'est un pays immense. Et ça, c'est plus de 100 millions d'habitants. Par contre, ce que le programme fait, c'est qu'en contrepartie de ces ressources décaissées, il y a un ensemble de ressources pour accroître la mobilisation des recettes budgétaires intérieures et améliorer l'efficacité dans l'utilisation des ressources. Donc, ça dégage des économies. Donc, ça évite les déperditions de ressources. Et tout cela mis ensemble, ça permet d'élargir les ressources auxquelles le gouvernement peut avoir accès maintenant pour faire face aux enjeux de développement.
Dans l'idéal, il aurait été le schéma contraire, c'est-à-dire le pays s'est mobilisé elle-même de recettes en interne et que le Fonds monétaire ou la Banque mondiale ne viennent qu'en appui. Mais là, apparemment, on a du mal à mobiliser les recettes à l'interne et puis la Banque mondiale et le Fonds monétaire à qui vous viennent en aide, et ça devient deux fois très compliqué.
Bon, et disons que le rôle effectivement du FMI, de la Banque mondiale et des autres partenaires, c'est d'accompagner. La preuve, comme je vous l'ai dit, c'est le programme économique et financier du gouvernement que le FMI appuie par la facilité élargie du crédit. Mais il faut quand même noter que au niveau de la mobilisation des recettes budgétaires intérieures, il y a eu des progrès grâce au programme. Avant le programme, si vous prenez le ratio des recettes par rapport au PIB, c'était à peine 8%. Mais aujourd'hui, ce ratio, il dépasse 12%. Donc, il y a eu quand même une amélioration. Mais cela n'empêche que ça reste très en deçà des niveaux où il faudrait aller. Dans le cadre du programme, l'ambition, c'est d'aller vers la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne, qui est autour de 15 à 17%, et graduellement aller vers 20%. Parce que sans les recettes budgétaires intérieures, on ne pourra pas faire face aux défis du développement. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, le FMI, la Banque mondiale, on ne fait qu'accompagner.
Vous venez en appui. Voilà. Mais alors, vous avez également, Maître Bissimo en a parlé, il est également Maître Patrick Odia qui est revenu sur ça. On soupçonne que le FMI ne tient pas compte des critères de l'éligibilité, il y a peut-être des rétrocommissions. Apparemment, il y a des évaluations sont faites, mais sans respecter les critères de l'éligibilité.
Non, comme je vous l'ai dit, il y a un ensemble de critères quantitatifs qu'on regarde et de mesures de réformes structurelles. Et on fait une évaluation d'ensemble. Et quand il arrive qu'il y ait une ou deux mesures sur lesquelles il y a un petit glissement, on essaie de voir est-ce que le glissement il est assez important ou bien il est relativement raisonnable, et surtout, est-ce qu'il y a des mesures correctives qui sont mises en œuvre pour y remédier. Et dans le cas de cette revue, par exemple, oui, il y a eu, par exemple, un dépassement au niveau du critère relatif au plafond sur le niveau du déficit intérieur base caisse.
Mais là, c'est, vous répondez déjà à Maître Parti qui a parlé des indicateurs.
Tout à fait.
Voilà, c'est un indicateur.
Mais ce dépassement est intrinsèquement lié, en fait, aux dépenses exceptionnelles de sécurité élevées qui sont la résultante de l'intensification du conflit. Donc, c'est pas que c'est pour des raisons non légitimes. Et comme je vous l'ai dit, il y a des mesures correctives que le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre et surtout de veiller à ce que dorénavant les dépenses soient exécutées conformément à la chaîne de la dépense et non plus en procédure d'urgence. Aussi, il y a le plancher sur les dépenses sociales qui n'a pas été respecté. Et ça aussi, c'est lié au fait que le niveau élevé des dépenses de sécurité, ça fait un effet d'éviction sur les dépenses sociales. Mais il y a eu des mesures qui ont été prises pour s'assurer que ce plancher-là soit respecté. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le programme permet quand même de veiller à ce que les couches les plus vulnérables de la population soient protégées. Et ça, c'est très important. Maintenant, par rapport il y a monsieur Sylvain qui a mentionné le fait que voilà, il y a des populations dans par exemple dans l'Ituri, des jeunes qui sont très vulnérables par rapport aux groupes armés, effectivement. Et le but justement dans le cadre du programme, c'est de veiller à ce que on ait une création d'espace budgétaire nécessaire pour accompagner la stratégie de diversification économique du pays. Parce que l'économie est très dépendante par rapport au secteur extractif. Et donc l'enjeu, c'est de veiller à diversifier ça en investissant dans les infrastructures de transport, comme ça a été mentionné,
oui,
dans les infrastructures énergétiques pour donner de l'énergie, non seulement l'électricité, non seulement aux populations, mais aussi au secteur extractif. Pas uniquement pour extraire les minéraux bruts, mais aussi pour veiller à la transformation. Parce que celle-là, ça va donner lieu à la transformation structurelle de l'économie. Et plus vous transformez, plus vous montez en gamme dans la chaîne mondiale de valeur. Et c'est là où vous créez davantage de richesses, d'emplois récents. Et ces emplois récents, justement, permettront de canaliser les jeunes vers ces secteurs productifs et être moins vulnérable par rapport aux groupes armés, comme il l'a si bien souligné. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Jérémy a mentionné par rapport au fait que, voilà, il faut mettre fin aux exonérations indues. C'est-à-dire, on n'a pas dit que toute exonération n'est pas pertinente, mais il faut veiller à ce que, quand il y a des exonérations avec des cahiers de charges à l'appui, on fait une évaluation régulière. Est-ce que les cahiers de charges sont remplis? Si ce n'est pas rempli, ça veut dire que les exonérations ne sont pas efficaces. Donc, il faut les rationaliser. Et surtout, il faut éviter les abus dans les exonérations parce que ça fait non seulement perdre des recettes importantes à l'État et ça ouvre la voie aussi à de la concurrence déloyale. Et donc, ça, c'est un point très important qu'il a souligné et ça fait partie de l'agenda des réformes. Et d'ailleurs, le gouvernement s'apprête à adopter un plan à court, moyen et long terme de mobilisation des recettes budgétaires qui prend en compte justement toutes ces dimensions qu'il a mentionnées. Et il a mentionné aussi le besoin d'investir dans le secteur extractif. Je ne peux pas être plus d'accord avec lui. C'est en droite ligne avec les recommandations sur lesquelles nous travaillons avec les autorités. Et par rapport à ça, il est prévu que le gouvernement adopte graduellement un cadre macro-budgétaire aux ressources du secteur extractif.
Voilà, donc
parce que ça va permettre de réduire la vulnérabilité du pays par rapport aux fluctuations sur les coûts des matières premières.
Avant de prendre le dernier auditeur aussi, parce qu'il y a beaucoup qui ont insisté par rapport à ça,
oui,
avant Maître Parti Odiakeg, est-ce qu'il a insisté sur le principe de transparence et de bonne gouvernance? Comment vous comptez vraiment vous impliquer dedans?
Tout à fait. Et le premier axe à travers lequel on s'attaque au problème de gouvernance et de transparence, c'est en veillant à renforcer la crédibilité et la sincérité du budget. Parce que quand moi je parle souvent aux gens, on me dit oui, le budget a augmenté, maintenant c'est à 14, 15 milliards de dollars, mais on ne voit rien. Je leur dis, c'est bien de regarder ces chiffres votés au niveau du Parlement, mais ce n'est pas les chiffres votés qu'il faut regarder. Il faut regarder l'exécution budgétaire. Parce qu'il y a ce qu'on vote et il y a l'exécution.
Oui.
Et ça, c'est lié au fait que il y a toujours des niveaux assez élevés de dépenses exécutées en procédure d'urgence, donc qui ne respectent pas totalement la chaîne de la dépense. Mais depuis le début de ce programme, le gouvernement s'est attelé à régler ce problème. Et donc ça, c'est au cœur même des réformes qui sous-tendent le programme. Mais il n'y a pas que cela. Il y a tout ce qui est dimension de transparence. Par exemple, grâce au programme, dorénavant, et ça c'est depuis le programme précédent, chaque fois qu'il y a un nouveau contrat minier, ou bien même un amendement d'un contrat minier, au bout de 60 jours, le contrat doit être publié. Et vous êtes témoin. Il y a même les contrats SICOMINE, tout ça c'est publié grâce au programme. Et avec ça, les citoyens ont la possibilité de consulter ces contrats. Et s'il y a des failles, ils interpellent leurs représentants au Parlement.
Et c'est ça de près. Voilà, on va prendre le deux derniers auditeurs avant de conclure avec notre invité. Georges Kilangalanga qui nous appelle depuis Bounia et Marie-Paul Awa qui est à Kisangani. Georges Kilangalanga, vous avez la parole. On n'a plus assez de temps. Juste encore 10 minutes, juste pour un complément. Peut-être que vous aurez aimé ajouter autre chose par rapport à tous ceux qui vous ont précédé. Vous avez la parole, Georges Kilangalanga.
Oui, bonjour Monsieur Marcel. D'abord, je rappelle que l'argent que le FMI donne au gouvernement congolais n'est pas un cadeau, c'est un prêt qui sera remboursé. Mais je pense que bien que ces fonds viennent soutenir la stabilité économique du pays, je pense que cette institution est en train de donner, c'est justement un fossoyeur ou un naufragère de l'économie nationale. Parce que le FMI est bien au courant. Et en plus de ça, avant de donner des fonds, il y a des conditionnalités, notamment des réformes économiques. Mais le FMI est bien informé qu'au Congo, la chaîne de la dépense n'est pas rarement respectée. La bonne gouvernance est une denrée rare. Les dépenses extra-budgétaires, les dépassements, les détournements, le FMI est au courant de ça. Mais il se permet quand même de donner l'argent au gouvernement congolais et cet argent... C'est la population de basse classe.
Voilà, merci Georges. Georges, c'est ça l'essentiel, je pense. Donc, notre invité va réagir par rapport à ça. Donc, d'après vous, il est au courant de la mauvaise gestion de la RDC, mais le FMI continue à approuver des programmes de financement. Merci Georges Kilangalanga depuis Bounia. Marie-Paul Awa, vous êtes les tout derniers. Je vous en compte également une minute pour permettre à notre invité de réagir. Vous avez la parole, Marie-Paul Awa, depuis Kisangani.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à l'invité. Le moins que je peux dire, c'est que la RDC n'essaie que revenir sur les vieux débats. Vous savez, l'aide internationale, c'est parmi des grandes notions qui sont censées être maîtrisées par les pays. Et les États ont compliqué. Tout ce que les entreprises, les institutions de Bretton Woods donnent, comme vient de dire l'auditeur de tout à l'heure, ce sont des dettes à long terme. Et ces dettes-là sont remboursables. Et les États, comprenant ces dons, ils ont décrié pourquoi, parce que l'aide internationale est liée, l'aide internationale est imprévisible et l'aide internationale est coûteuse. Et comme vous le savez, la RDC a déjà beaucoup d'endettements. Et ces endettements font de la RDC un pays le plus endetté, parce que nous avons déjà un target de plus de 10
Marie-Paul Awa, Marie-Paul Awa, pour vous, la RDC est un pays très endetté, ça c'est d'après vous, mais il continue toujours encore à bénéficier des aides, ce qui l'enfonce encore davantage. Merci Marie-Paul Awa. Il faut qu'on avance. Désolé, au tout dernier auditeur, on n'a plus de temps pour lui accorder la parole. Il faut qu'on puisse conclure avec notre invité. J'avais promis des lignes de réaction, je vais le faire. C'est Chrysostome Lebakwa qui réagit depuis Arou. Il nous dit ceci. Ce financement est une opportunité à ne pas rater pour stabiliser l'économie, restaurer la confiance et améliorer les conditions de vie des Congolais. Mais attention, sans volonté politique réelle, ces fonds risquent une fois de plus d'être engloutis dans les pratiques douteuses du passé. C'est maintenant que la RDC doit prouver sa maturité économique et institutionnelle. Voilà, en tout cas, je regrette vraiment pour le dernier auditeur qui insiste d'intervenir, Alphonse Chima Nika, depuis Kindo. On n'a plus assez de temps, il ne me reste que 4 minutes pour clôturer ce magazine. Il faut que notre invité puisse conclure. Ça sera pour une prochaine occasion, Alphonse. Vous avez la parole,
Nika. Oui, tout à fait. Je vais commencer par
rapidement,
une des dernières interventions relative au niveau d'endettement de la RDC. Je pense peut-être qu'il y a des problèmes de perception, parce que contrairement à ce qui est dit, le taux d'endettement de la RDC, c'est autour de 22% du PIB. Et si vous regardez dans toute l'Afrique subsaharienne, c'est un des taux les plus bas. C'est un des taux les plus bas. En Afrique subsaharienne, la moyenne, c'est autour de 55%. Il y a des pays même qui atteignent 100%. Mais cela n'est pas une porte ouverte pour une course effrénée vers l'endettement. Il faut s'endetter pour des investissements productifs, mais pas pour du fonctionnement. Et veiller autant que possible à ce que ce soit à taux concessionnel. Et ça me permet aussi de mentionner que les prêts que le FMI octroie à la RDC, ce sont des prêts à taux concessionnel. Donc c'est à taux zéro. Si vous comparez ça avec les taux auxquels le gouvernement s'endette sur le marché intérieur ici, quand le gouvernement s'endette sur le marché intérieur ici, en dollars, c'est à près de 10%. Et quand c'est en monnaie nationale, c'est à plus de 25%. Comparez ça avec des prêts à taux zéro que le FMI donne. Donc, voilà, je voulais souligner ça. Et aussi, il y avait
que la mauvaise gouvernance et tout, mais vous continuez à financer.
Non, comme je vous l'ai dit, grâce au programme, il y a tout un élan de modernisation de la gestion des finances publiques en cours. Naturellement, il y a des pratiques qui ont été ancrées pendant de longues années. Donc, on ne voit pas les résultats du jour au lendemain. Mais comme je vous l'ai dit, le gouvernement s'est attelé et vous verrez dans les mois à venir, il y aura la publication de tous ces résultats et les populations pourront se faire leur propre idée, y compris par exemple sur la baisse de l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Ça, c'est le pilier du programme. Donc, si le programme doit continuer, il faudra qu'on voit des améliorations significatives dans l'adhésion à la chaîne de la dépense.
Donc, il y a des indicateurs palpables et le FMI travaille sur ces indicateurs.
Tout à fait. Voilà. Par exemple, il est convenu que, par exemple, pour 2025, le niveau d'exécution des dépenses en procédure d'urgence à la fin de l'année, ça ne doit pas dépasser 8%.
Voilà. C'est bien dit.
Je voudrais,
il y a un auditeur qui avait parlé
de transparence, d'audit. Oui. Et oui, je voudrais confirmer tout à fait. Grâce au programme, par exemple, la Cour des comptes produit chaque année des comptes de reddition. Et à travers ces comptes de reddition que les parlementaires débattent la qualité de l'exécution.
On est vraiment à la fin. René Tapsoba, représentant au pays du FMI, merci d'avoir été des nôtres.
C'est moi qui vous remercie de l'opportunité d'échanger avec vos auditeurs.
Voilà, fin de ce numéro du Parole aux auditeurs. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Et merci à toute l'équipe des productions. À très bientôt.